Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
Bonjour. Nous recevons aujourd'hui Morgane Camiret, une grande spécialiste de l'ésotérisme. Si vous avez du mal à cerner le sujet, vous n'allez pas tarder à tout comprendre. Nous avons 25 minutes pour ça. Eh bien, bonjour Morgane Camiret. On va commencer par la fin, en fait, si vous le voulez bien. Votre premier livre est un roman qui s'intitule « La terre aux moines », qui a été Grand Prix Gustave Flaubert en 2003. Et puis, très vite, vous vous penchez avec insistance sur l'ésotérisme en 2004 avec « L'héritage des Atlantes ». Et dès le début, on ne rigole plus, si j'ose dire, parce qu'il s'agit d'un travail à la fois historique et linguistique sur les croyances. Donc, la question est la suivante. Qu'avez-vous découvert avec ce livre qui a justifié l'existence de ce livre ?
Effectivement, j'ai commencé avec la Terre aux moines. Il y a un lien encore avec l'ésotérisme. Parce que je vivais donc dans un lieu qui avait été qui était un domaine qui appartenait à la petite aristocratie, qui avait été récupéré ensuite par l'Église. Donc j'ai retrouvé la trace dans les archives de comment ça s'est passé. Et effectivement, l'intérêt est venu du fait que ce lieu était hanté et j'entendais des pleurs pendant la nuit. Et j'ai voulu savoir ce qui s'était passé. Donc en fait, ce qui m'intéresse et qui m'intéresse toujours, c'est le lien, effectivement, entre l'histoire, l'évolution de la psyché humaine et donc des croyances. Et aussi la réalité. Qu'est-ce que la réalité ? Où sommes-nous ? Quel est ce monde ? Etc. Et pourquoi, justement, est-ce que nous avons des expériences étranges, comme ces pleurs que j'ai pu entendre ? Voilà. Et donc, après, je suis partie, effectivement, à la recherche des croyances qui persistent sur le paranormal, particulièrement dans certaines lignées qui semblent avoir acquis... peut-être génétiquement, je ne sais pas, des dons psychiques qui font que certaines personnes sont hypersensibles.
Plus que d'autres.
Et donc, j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi. Et donc, je pars aussi à un moment donné dans ce livre. Je me retrouve en Grèce avec des prêtresses comme la Pitti qui apparemment assistaient à des rites sacrificiels où elle buvait le sang des taureaux qui est très dangereux en fait. Hein, donc, ça devait être à très petite dose. Il faut penser que en Méditerranée, on dit toujours que on est ou l'on devient ou l'on fait pousser en soi ce que l'on mange. Donc là, comme le taureau était sacré, on rentre dans le sacré et ça pénètre, donc je disais peut-être, c'est tout à fait, certainement pas scientifique, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça, malgré tout.
Et ça remonte à l'Antiquité, puisque le sacrifice du taureau, déjà, chez les Grecs, on retrouve des traces de ça, de ce type de... Enfin, moi, j'appelle ça un sacrifice, mais
oui.
Par définition, hein, parce que pour prendre le sang, il faut faire un peu de mal au taureau.
Mais c'était offert à la divinité, et ça, il représentait, en fait, la divinité. Hein. Et donc... Par la suite, donc, je rentre dans l'histoire, effectivement, de ces lignées de prêtresses qui ont été remplacées au moment du patriarcat. Et donc, on a laissé aux prêtresses grecques la nuit pour continuer le culte des divinités lunaires féminines. Et la journée et les temples leur étaient interdits. De ce fait, elles se sont retrouvées dans la nature, comme par exemple avec le culte aussi du dieu Dionysos, que les femmes suivaient, alors qu'on dit qu'on en parle comme d'un culte délirant et peut-être violent, on ne sait pas. Bon, c'était surtout pour le discréditer hein, qu'on a dit qu'il était violent. Mais en fait, c'était un culte de transe. Et c'est Alors, à ce moment-là, le patriarcat a mis en opposition, effectivement, la raison et l'état de transe, l'état de modifié de conscience. Et on a dit que l'un était féminin et l'autre était masculin. Et du coup, à la suite, on voit bien que, avec ce raisonnement réservé au patriarcat, on est tombé dans les religions, même comme la chrétienté, où toute autre pratique, la nuit d'un culte lunaire, etc., particulièrement par des femmes, était vouée à la persécution. Mais il l'était déjà en Grèce, hein.
Ouais.
Donc, déjà en Grèce, avec les prêtres de Dionysos, dont de grands gens du théâtre grec ont dû fuir la persécution et trouver des mécénats qui leur permettaient de continuer à vivre.
Donc ça, c'est un bouquin qui, je pense, est passionnant de ce point de vue-là, parce que c'est déjà passionnant la manière dont vous en parlez. Donc, je crois que là déjà, vous avez bien vendu ce livre-là. On continue parce que j'aimerais faire un peu le tour. Je ne peux pas parler de tous vos livres, ça va être compliqué, mais au moins, comme on vient de le faire là, aller vers tout ce qui tourne effectivement autour de toutes vos études que vous avez faites autour de l'ésotérisme. Alors après, avec Vision Stonehenge, j'ai bien prononcé, vous creusez encore un peu plus le sillon, si j'ose dire, cette fois avec ce célèbre site du Royaume-Uni. En dehors de l'aspect archéologique, vous racontez un événement tenu secret pendant plusieurs années. Quel est-il exactement ce secret ? Est-ce qu'on peut le révéler avant ou est-ce qu'il vaut mieux que les gens lisent le livre pour mieux comprendre ? Alors, en tout cas, qu'est-ce que vous pouvez dire ?
Alors déjà, je peux situer le phénomène. Hein. Donc, nous partions célébrer la Samhain. Parce que la Samhain, c'est le nom réel de Halloween. Hein. Donc, nous nous rendions en Cornouailles britannique. Et en fait, ayant voyagé toute la nuit, nous sommes arrivés sur le site de Stonehenge au moment où se levait le soleil. Le soleil se lève, tape sur les pierres, et une à une, elles vont s'allumer. Il va se passer un phénomène extraordinaire.
Vous avez été témoin de ça.
Et j'ai été témoin de ça. Donc c'était à la fois fascinant, terrifiant. Donc on a contourné les pierres. Je n'étais pas seule. Hein. Et donc après nous avons continué notre chemin, etc. Mais j'avais conservé des notes sur ce qui s'était passé, avec les détails sur chaque pierre. Éventuellement des années après, dont j'en ai plus parlé, non, parce que ça. Vous savez, c'est des choses assez extraordinaires dont on ne peut pas parler facilement à tout le monde parce que les gens vous disent « Oh, c'est pas vrai, c'est de la folie. » Bon, je n'ai pas de problème psychiatrique, ça c'est certain. j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs gens spécialisés, entre autres pour les témoignages que j'apporte dans mes autres livres, quoi. Parce qu'ils font de la recherche là-dessus, donc c'est intéressant. Et donc, je peux vous assurer que je suis tout à fait normale. Donc, en fait, j'avais conservé ces notes, et de façon très extraordinaire, parce que la vie, pour moi, c'est vraiment quelque chose de formidable. Quand je suis rentrée en France, j'ai rencontré donc Arthur Hainaut, qui est géologue et archéologue. Et à un moment donné, je lui ai parlé de cet événement extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, en dehors de l'ordinaire, vraiment inattendu en plus. Et à ce moment-là, il m'a dit « Mais attends, c'est pas n'importe quoi ça. » il y a une histoire, ça correspond à une époque, etc. C'est du néolithique, c'est d'un passage voilà, au néolithique. Et c'est inscrit dans la pierre. Moi, je n'avais aucune connaissance de la préhistoire, du mésolithique, du néolithique. Tout ça, pour moi, c'était vraiment plus que vague. Jusqu'à ce que je rencontre cette personne qu'on commence à étudier tout ça, effectivement. Donc, il a dit il faut passer le message. Donc, nous avons écrit ça à quatre mains. Lui, il s'est occupé de tout le côté géologique.
Ouais.
La construction, les pierres, etc. D'une façon c'est très accessible. Aussi, il est spécialiste des calendriers de l'époque gauloise et gallo-romaine. Il sait les calculer, etc. J'ai beaucoup d'admiration parce que c'est pas facile. Et donc, moi j'ai écrit le côté tout ce qui correspondait donc au mouvement saisonnier qui était inscrit dans le cercle. Et là, récemment, il y a de nouvelles recherches qui ont été faites sur le site de Stonehenge qui confirment exactement tout ce que nous avons dit.
Ah, ça. Comment dire, ça, c'est rassurant.
Oui, alors là, ça demande une traduction en anglais pour qu'on le vende sur le site, vraiment.
Ah oui.
Voilà. J'ai demandé à mon éditeur, c'est une possibilité, oui.
Donc c'est un projet, ça
Oui, ça serait vraiment un projet. Oui.
Ah ben ça, c'est une bonne nouvelle, ça.
Oui.
Très bonne nouvelle. Hein.
Ensuite, par rapport à ce livre-là, ça a été recommandé apparemment à nos lignées de druides aussi en France.
Mais les hommes ont sur le ciel fait la lumière et remplacé par c'est le hasard, un soir te conduit, suis le brouillard. Berger en de pierre, mémoire sombre et magique, un sanctuaire habité, bien le sceptique
à l'écoute des mots sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com.
Donc on avance un petit peu, on avance dans l'étude de l'ésotérisme, dans les danses sacrées cette fois-ci. D'ailleurs, c'est le titre du livre, Les danses sacrées. Vous nous expliquez que le chamanisme n'est pas forcément réservé à certaines régions du monde comme on pourrait le penser. Mais que c'est au contraire bien présent également en Europe. Et finalement, le divin dans tout ça n'est pas loin du divin actuel.
Là, dans ce cas, le cas des danses sacrées, c'est encore, je reviens encore au rite, qui était une mise en symbiose de l'humain avec la nature. Et on retrouve ça un peu partout. Mais les gens disent, bon, c'est des fêtes, bon, comme par exemple les pardons, moi, c'est pas ma spécialité, c'est Bernard Riault qui écrit ça, les pardons en Grande-Bretagne, ou toutes ces fêtes culturelles, lui, c'est en Petite-Bretagne, moi, je parle surtout de la Grande-Bretagne, où on roule, par exemple, des fromages au moment des solstices d'été. Les jeunes hommes doivent attraper le fromage. Bon, parfois, il y a des blessés. C'est un truc très dangereux. On a, par exemple, les rites dans les rues de Cornouailles britanniques, aussi avec le teasing du cheval jupon qui saute sur les dames pour à des moments de fertilité. On retrouve ça aussi en pays catalan, à Prades de Mollo. Et donc, il y a toujours ces rituels de fertilité qui sont toujours présents dans nos cultures. Il y a toujours cette obsession, en fait, aussi humaine avec la mort et la résurrection des saisons. On est toujours tous heureux de retrouver le printemps. Cette année, tout particulièrement, on va être vraiment heureux de retrouver le printemps. Mais on retrouve effectivement, je parlais tout à l'heure de Dionysos. Dionysos, c'est le dieu du printemps qui, bon, au moment de l'automne, est pleuré à sa mort et il revient. On retrouve la continuation avec le Christ. N'en déplaise, hein. Voilà, chacun est libre de croire comme il veut, je le respecte. Mais il y a quand même cette notion de mort et de résurrection, une continuation, oui, que l'on retrouve
dans toutes les religions du monde, à toutes les époques.
Et à chaque fois, le chamanisme, c'est de mimer. Il y a toujours, on mime ces archétypes qui représentent on va mettre entre guillemets divinité, parce que ce sont des forces de la nature, en fait, que l'on a, à qui l'on a donné des forces anthropomorphiques, que l'on a personnifiées. Bon, en fait, ce sont les forces de la nature auxquelles on sent qu'il y a, en fait, l'être humain cherche un sens dans sa vie, et on sent qu'il y a un sens de tout ça. Parce que s'il n'y a pas un sens dans tout ça, il y a un sens dans rien.
Alors on va finir parce que l'heure approche. On va finir avec le dernier. Alors là c'est tout chaud, hein. Il sort du four, hein, votre livre là. Il y a encore, c'est comme les croissants chauds du matin, hein. Alors ça s'intitule Les tarots, dons mythiques de l'Inde au monde, chez l'Harmattan. Alors les tarots, c'est quoi au juste finalement ?
Ce qui m'intéressait, c'est de savoir leurs origines. Alors il y a des occultistes comme Gérard Papus en Causse, alias Papus, et d'autres. Je crois même Aleister Crowley, le fameux occultiste, et d'autres, qui nous disent qu'effectivement, ils soupçonnaient que ça vienne de l'Inde. Mais personne ne nous a expliqué comment.
Et ne l'a confirmé ou vérifié.
Ils n'ont pas vérifié historiquement. On sait qu'ils arrivent à la cour des Sforza, hein, au XVe siècle. Alors, ce qu'on voit et ce qui est intéressant, c'est qu'avant ça, quand il y a l'Inquisition, on accuse les gens de voyance, de tas de choses, mais que les cartes n'apparaissent pas. On n'a jamais dit qu'elles étaient ni diaboliques ni sataniques. Les cartes n'apparaissent pas du tout. Mais après le XVe siècle, on trouve aussi des représentations de cartes anciennes dans la peinture Europe, ce qui n'existait pas avant.
Ouais, donc c'est ce qui permet de situer. Les traces, les premières traces.
Retrouver les traces, en arrière, je fais le chemin inverse pour me retrouver en Inde. Et alors là, les raisons, pourquoi est-ce que ces cartes existent ? Alors, je ne veux pas raconter toute l'histoire, mais en même temps, c'est intéressant. Moi, j'ai appelé ça un temple portable.
Ah, c'est original, ça, comme nom, ouais. En fait, ça veut dire que ça contient toute la mystique, tout le chamanisme dont on parlait tout à l'heure, par exemple, toutes ces choses-là, réunies dans un jeu de cartes. Pas de cartes.
L'Inde a une spiritualité vieille de plus de 5000 ans. C'est une spiritualité, les dieux sont des concepts, parfois ce sont comme les Grecs qui faisaient des dieux de leurs héros, de leurs rois. Alors, ça existe aussi en Inde, hein, comme Krishna. Et donc, mais c'est aussi une verticalité, il y a une verticalité, il y a une élévation au-dessus justement de tout ce qui est bassement matériel, quoi, on va dire. À partir de ce moment-là, les objets qui vont en ressortir vont avoir une universalité. C'est pour ça que ça marche. Mais les images représentent effectivement, à ce référentiel hindou. J'ai mis des années de recherche, hein, ça s'est pas fait. C'est-à-dire que j'écris plusieurs livres à la fois, je conserve les données, et il y a un moment où je publie, quoi, où je publie pas, parce que j'en ai d'autres encore à travailler.
Ça prend le temps qu'il faut, mais.
Ça prend le temps qu'il faut, il faut que ça mûrisse, il faut que les recherches soient là, que tout soit, bien étayé, avant que je me mette à l'ouvrage. Et donc, pour moi, il n'y a là aucun doute.
C'est confirmé.
On sait aussi qu'en Inde qu'il y a eu donc des attaques des Moghols islamisés entre le 9e siècle et le 15e siècle. Il y en a qui me disent même jusqu'au 17e. Il y a des millions et des millions de morts. Bon, le Taj Mahal, c'est islam, hein. C'est pas vraiment de l'hindouisme, hein. C'est magnifique. Mais voilà.
À préciser.
Effectivement, l'hindouisme étant ce qu'il est, c'est-à-dire que l'on est pour remplir un rôle dans une certaine classe avec sa spiritualité, il n'est pas question que l'on rate son incarnation. C'est pour ça que on se marie dans sa caste, on continue de suivre les règles de sa caste. Chaque caste a des règles différentes de spiritualité. Par exemple, les kshatriyas, ils ont le droit de manger de la viande parce qu'ils vont se battre, ce sont des guerriers, il faut qu'ils aient de la force. Mais à un moment donné, ils vont se retirer et à ce moment-là, ils vont se purifier, ils vont devenir végétariens, ils vont beaucoup méditer et tout ça avant de partir, de quitter la dimension. Mais chacun doit bien remplir son rôle. Donc en fait, quand vous avez des guerriers qui vous envahissent, qui détruisent les forteresses, veulent vous imposer leur religion, et ça c'est enseigné en Inde dans les écoles. Et j'ai rencontré un monsieur Chauhan qui se dit descendant d'un grand héros Chauhan, parce qu'il a laissé toute une lignée, et qui m'a dit effectivement, moi j'ai appris tout ça. Je peux vous dire que oui, en Inde, en France on n'en parle pas, en Europe on n'en parle pas, personne n'est au courant, mais en Inde on sait.
Voilà. Bon, on va pas en dire plus, hein. Maintenant, il faut que les gens l'achètent, le livre. Eh ben, merci à vous, et puis bon courage pour la suite, hein. Je pense qu'il y aura d'autres bouquins, il y en a d'autres qui sont sur le feu. Hein.
Oui.
Bien, et bien maintenant que l'ésotérisme n'est manifestement plus un secret pour vous, il ne vous reste plus qu'à creuser le sujet en lisant les livres de Morgane, tout simplement. Hein. Voilà, et bien sinon, on se retrouve dans 2 semaines, et puis d'ici là, portez-vous bien, parce que le temps étant ce qu'il est, il faut se protéger. Bon courage à vous, au revoir. We'll be right back.